When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Attention, cette série parle de drames humains. Il est donc possible que certaines scènes heurtent votre sensibilité.
C'est pour moi ce que j'appelle une mer de honte. C'est des gilets de sauvetage qui se rapprochent de plus en plus, qui sont vides, et en fait, peu à peu, ces gilets, en fait, il y a des gens à l'intérieur. Des visages dans l'eau qui ne se relèvent pas. On commence à voir aussi que c'est pas que des gilets de sauvetage, moi ça m'avait marqué aussi, c'est des chambres à air que les gens utilisent. Parce que c'est aussi ça la réalité en Méditerranée centrale. C'est des personnes qui se noient, et là c'est très concret. Très concret. Et pour nous, les gilets à bord que l'on a, nos gilets de sauvetage, qui sont désespérément vides en fait.
Le 22 avril 2021, Morgane et l'équipe de SOS Méditerranée ont été témoins d'un drame. La mort de 130 personnes venues de Libye. Mais plus que d'un drame, ils ont été les témoins directs pendant 36 heures et de façon très concrète du blocage politique devenu insupportable en Méditerranée centrale.
On est effectivement laissé très seul dans cette immense mer. On envoie des emails aussi aux autorités maritimes compétentes. Étant donné qu'on intervient en zone de recherche et de sauvetage libyenne, on informe les autorités maritimes libyennes. On le fait également au niveau des autorités maltaises, puis après italiennes, étant donné qu'on est sur ces zones de recherche et de sauvetage et que les autorités maritimes libyennes ne répondent jamais. Donc après, on envoie ces informations en copie, par exemple, au centre de coordination et de sauvetage maltais et italien. Et dans tous les cas, zéro réponse.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de coordination pour porter secours à ces 130 personnes? Et ce, malgré des dizaines d'appels de détresse. Pourquoi, alors que l'avion qui surveille cette frontière maritime a relayé ces cas de détresse par un Mayday radio, cela n'a eu aucun effet en mer? Et pourquoi les gardes-côtes libyens, pendant ce temps, n'ont pas prévenu l'Ocean Viking qu'ils intervenaient sur le premier cas de détresse? Ce qui a fait perdre plusieurs heures aux sauveteurs. Je m'appelle Sinamia et vous écoutez le deuxième épisode du naufrage. Deuxième épisode du naufrage.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts.
Le sujet, c'est aussi de les raccompagner, mais les raccompagner où?
Vous les ramener en Libye?
Vous avez des enfants, des femmes enceintes qui meurent devant nous. Et on s'en fout, on n'en parle pas.
On voit deux mains se lever depuis le centre de l'embarcation avec un poussin dans les bras, quoi.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter.
C'est une réalité dont on est tous coupables.
Réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Épisode 2. Le blocage.
Le blocage politique en Méditerranée centrale, on le devine en écoutant les témoignages de Morgane et Justine que vous avez entendus dans l'épisode précédent. Mais on le comprend surtout à travers les enregistrements radio des heures qui ont précédé la découverte de l'épave. Ceux que j'ai réussi à me procurer. Avec ce qu'on y entend... Mais aussi ce qu'on n'y entend pas. Et pour pouvoir décrypter ces enregistrements, il faut d'abord comprendre qui sont les forces en présence au moment de ce naufrage en 2021. Aujourd'hui, en Méditerranée centrale, il y a trois zones de sauvetage. En haut, une zone italienne. Elle part du golfe de Gênes, juste au-dessus de la Corse, et descend sous la Sicile. En dessous de la Sicile, au centre, on a une zone maltaise. Et en bas, enfin, une zone libyenne, au nord de l'Afrique. À l'intérieur de ces zones, ce sont les autorités de chaque pays qui sont responsables de coordonner les sauvetages. Dans le cas du naufrage du 21 avril 2021, le bateau et ses 130 personnes ont été signalés dans la zone libyenne. C'est donc le centre de coordination des sauvetages de Tripoli qui devait soit envoyer ses gardes-côtes en urgence pour les sauver, soit demander au capitaine d'un autre navire à proximité de prendre en charge ses naufragés pour les débarquer dans le port sûr le plus proche. Sauf que dans ce cas, les autorités libyennes qu'on entend ici discuter par radio n'ont pas envoyé leur garde-côte sur ce naufrage et n'ont pas mobilisé un autre capitaine de navire ce jour-là. Pas même celui de l'Ocean Viking qui était sur zone. Et même s'ils l'avaient fait, il faut donc encore trouver ce qu'on appelle un port sûr. Un port sûr en droit maritime, c'est un endroit où la vie des personnes sauvées n'est pas menacée. Et c'est là que ça bloque. Parce que la Libye, qui abrite souvent le port le plus proche géographiquement, c'est un état en guerre civile depuis 10 ans.
La tension ne redescend pas dans les rues de Tripoli. D'un côté, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale et de l'autre, celles du maréchal Haftar.
Fin juin 2018, il y a eu ce transfert de responsabilité, dont personne d'ailleurs n'a été prévenu. On a vu sur les cartes maritimes, assez subrepticement, je dirais, tout d'un coup, que la zone de recherche et de sauvetage n'est plus dévolue à l'Italie, mais au centre de coordination des secours de Tripoli, qui n'existait pas auparavant, donc qui est apparu comme ça, adoubé par l'Organisation maritime internationale, et qui donc dorénavant devrait s'occuper de la coordination de la recherche et du sauvetage sur cette très grande zone de recherche et de sauvetage de Méditerranée centrale.
Sophie Beau est la cofondatrice d'SOS Méditerranée. Avant ça, elle a dirigé des programmes sociaux et humanitaires depuis plus de 20 ans, au Moyen-Orient et en Afrique.
Depuis, on peut dire que c'est un total dysfonctionnement de cette coordination des sauvetages en Méditerranée centrale. Il n'y a absolument rien qui fonctionne de la part de ce centre de coordination des secours de Tripoli. Il n'y a aucune coordination par les gardes-côtes libyens du sauvetage en lui-même. Et il y a encore moins de débarquement ensuite dans un lieu sûr organisé par cette autorité de Tripoli. Puisque, pour le coup, il y a un consensus là-dessus, la Libye n'offre pas de port sûr. Donc là, on est dans l'absurdité totale. Depuis juin 2018, on confie une responsabilité à un corps de gardes-côtes libyens qui ne répondent pas forcément à un commandement unifié, ces gardes-côtes libyens, et dont on sait, c'est documenté par différents rapports des Nations Unies et de journalistes indépendants internationaux, qu'ils sont en collusion largement, voire certains sont carrément des chefs, des réseaux de traite humaine en Libye. Tous les témoignages correspondent et font état de violations très très graves des droits humains, de viols, de tortures, de rançons, d'esclavage, de travail forcé, d'humiliation, de privation de nourriture, etc., etc. La liste est sans fin dans ces camps de détention qui sont l'aboutissement des réseaux de traite humaine en Libye.
Comment expliquer cette décision de confier à la Libye une immense partie des sauvetages en Méditerranée centrale ?
Nous avons en Libye une situation que chacun connaît, et qui est lourde de grands dangers.
Cette idée, elle remonte en fait à 2014-2015, au moment où la crise migratoire est à son paroxysme en Méditerranée.
Danger par rapport aux migrations qu'un certain nombre de groupes entretiennent pour financer par ailleurs leur activité criminelle, voire terroriste.
À ce moment-là, l'ensemble des gouvernements européens tentent de trouver une solution, alors que plus d'1 million de personnes fuient des zones de guerre, comme la Syrie ou l'Érythrée, et demandent l'asile en Europe. C'est le pic des traversées en Méditerranée.
Donc l'intérêt de la communauté internationale, c'est d'avoir une Libye stable et sûre. D'où
le soutien. Et la personne qui représente la France dans ces discussions entre chefs d'État européens, c'est François Hollande.
Pardon. Oh, bonjour.
Alors quand j'ai commencé mon enquête, je savais que j'allais devoir l'interviewer. Et c'était pas forcément gagné. Parce que c'est un sujet technique et que c'est pas ce sur quoi un président de la République aime s'aventurer. Mais il a accepté. Et il m'a finalement accordé 45 minutes seul à seul.
Il y avait des arguments pour faire que la Libye gère elle-même finalement son domaine maritime, parce que c'est son domaine maritime. Chaque pays a une zone qui relève de sa responsabilité. Et ces arguments, c'est de dire la Libye est un État indépendant, la Libye a la volonté de s'organiser, nous pouvons l'appuyer, l'accompagner, y compris financièrement, ce qui a été fait, nous pouvons lui donner un certain nombre d'informations, mais c'est à elle de gérer son espace maritime. L'Europe était tout à fait prête à payer autant qu'il le fallait la Libye pour qu'elle retienne les migrants. Mais en réalité, c'était une fiction, puisque la Libye était en quasi-guerre civile, parce que des personnages libyens avaient des intérêts pour que les trafics continuent, parce qu'il y avait une économie souterraine, qui est une économie qui fonctionne et qui apporte à des familles libyennes un certain nombre de ressources. L'autre solution, c'est déjà de considérer que nous avions un devoir, nous-mêmes, d'aller jusque dans les eaux maritimes libyennes et de faire soit un barrage, soit des sauvetages, mais de faire de se substituer à l'État libyen.
Et cette solution, elle va voir le jour en 2014. Et elle va prendre un nom. Opération Mare Nostrum, notre mer. À ce moment-là, l'Italie déploie ses navires militaires en Méditerranée pour sauver les embarcations qui tentent la traversée malgré les dangers. Et ça, sur une zone maritime allant de ses côtes jusqu'à 20 km des côtes libyennes.
Il lutto nazionale, la presenza qui, la decisione.
Pour comprendre pourquoi c'est l'Italie qui prend le contrôle des opérations, il faut remonter un an avant. En 2013, l'Italie a connu l'un des naufrages les plus mortels au large de Lampedusa, sa dernière petite île au sud de la Sicile. Le chef du gouvernement italien, Enrico Letta, va même présenter ses excuses pour la catastrophe devant les caméras du monde entier. En réponse, il souhaite lancer une mission prioritaire parce que pour nous, dit-il, il est intolérable que la Méditerranée soit une mer de mort.
L'Italia a intenzione di fare del problema un problema centrale nell'agenda nazionale ed europea.
Et pour ça, il va budgétiser près de 20 millions d'euros par an pour Mare Nostrum, en espérant que l'Europe participe, notamment via Frontex.
My name is Neville Dawkins.
My name is Mari Juric.
My name is. These people and hundreds more are part of Frontex, the European Border and Coast Guard Agency. They work together at the external borders of.
Frontex, c'est le garde-frontière de l'Europe. Aujourd'hui, comme on le voit dans ces vidéos de présentation, ce garde-frontière possède tout. Un staff de bientôt 10 000 membres, des bateaux, des camions, des motos, des drones, et même des avions avec des caméras dernier cri qui peuvent zoomer quasiment à l'infini sur les bateaux de contrebande ou les embarcations clandestines en détresse. Mais à l'époque de Mare Nostrum en 2014, Frontex n'a pas tout ça. Et surtout, l'Europe va laisser l'Italie seule assumer la facture de Mare Nostrum. Elle sera 5 fois plus importante que prévu, 100 millions d'euros au total, pour le sauvetage de près de 150 000 personnes en un an.
En fait, c'est le gouvernement italien qui a mis en place Mare Nostrum et qui a été le seul à payer l'addition, je dirais, et à mettre en place les moyens opérationnels, financiers. Tout a été seulement mis en place par l'Italie. L'Italie a appelé le soutien de l'Union européenne. Ce soutien n'est jamais arrivé. Au contraire, l'Union européenne a proclamé que cette opération provoquait un appel d'air. Et donc, le manque de soutien de l'Union européenne a mis fin à l'opération en Italie. C'était insoutenable pour les Italiens de rester seuls à financer le coût de cette opération.
Si nous sauvons, et c'est notre devoir, des migrants qui fuient avec des embarcations qui les mettent en péril, si nous leur permettons d'accéder à nos frontières, nous créons nécessairement, pas simplement parce qu'il y a des passeurs, mais nous créons nécessairement dans l'esprit de ceux qui veulent venir jusqu'à nous, l'idée qu'on va les sauver. Et qu'ils peuvent donc utiliser tous les moyens de fortune pour aller jusqu'à nous. Donc, d'une certaine façon, l'Europe découvre qu'elle est assez mal adaptée à ce qui va être un drame qui ne va pas être simplement sur quelques mois, mais qui va durer quelques années. Et ne prépare pas non plus l'opinion publique à comprendre ce qui va se produire, c'est-à-dire un courant migratoire qui va prendre une dimension considérable, puisqu'on pense qu'il y a 1 million de personnes qui ont fait le voyage, par mer le plus souvent, par terre aussi. Mais donc c'est 1 million de réfugiés qui sont arrivés pendant cette période 2014, 2015, 2016. J'essayais d'expliquer ça et à mes collègues européens, aux chefs d'État et de gouvernement, et de faire comprendre à nos concitoyens que nous allons vivre une période qui va être extrêmement difficile, où il faut que nous fassions preuve d'humanité, mais aussi de responsabilité, et où la solution doit être européenne. Et c'est ce qui s'est décidé tout au long des mois qui ont suivi, mais avec la résurgence d'un égoïsme national qui a privé l'Europe précisément des capacités qu'elle aurait pu déployer pour faire face à un tel drame. Donc c'est là que l'absence de solidarité européenne est apparue.
Un an après son lancement, l'Italie retire ses bateaux de sauvetage en Méditerranée pour lutter contre un soi-disant appel d'air qui ne s'est jamais vérifié. Selon les rapports de Frontex, le nombre de migrants en situation irrégulière détectés dans cette partie de mer face à la Libye reste autour de 150 000 à 180 000 personnes en 2014 comme en 2015, l'année où Mare Nostrum s'arrête. À l'est de la Méditerranée, en revanche, ce chiffre explose. La guerre en Syrie pousse à l'exode 850 000 personnes qui arrivent en Grèce.
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione illegale.
Et face à cela, en plus d'arrêter les sauvetages au large, l'Europe décide de construire un bouclier de bateaux le long de ses côtes, piloté par Frontex. Concrètement, les bateaux clandestins sont arrêtés par des gardes-côtes à leur arrivée sur le littoral européen. Mais ce bouclier qui se veut dissuasif ne va pas non plus ralentir les départs de Libye. Le chiffre qui va en revanche doubler en 2016, c'est celui des morts. Près de 5000 en un an. C'est l'année où je suis monté plusieurs semaines sur l'Aquarius pour le constater. Et la première image que j'ai en tête quand je rencontre les sauveteurs des SOS Méditerranée à cette époque, ce sont ces 22 sacs mortuaires blancs, marqués au feutre noir, qu'ils débarquent sur le quai d'un port sicilien en août, sous un soleil de plomb. 21 femmes et un homme. L'équipage a le regard vide, ou masqué par des lunettes de soleil. Comme pour le naufrage du 21 avril 2021, c'était pour beaucoup une première fois. Et c'est logique, parce qu'en 2016, SOS Méditerranée ou d'autres ONG qui patrouillent en mer n'ont que quelques mois d'existence.
Je ne peux pas dire que c'était une solution. C'eût été d'ailleurs une forme de fuite devant la responsabilité, de dire c'est aux ONG si je puis dire, de ramasser tout ce que finalement nous n'avons pas été capables de maîtriser ou de sauver. Donc jamais j'ai considéré que les ONG pouvaient se substituer aux autorités étatiques. Elles pouvaient apporter aussi un complément, ce qui s'est quand même produit. Et moi-même, je suis allé aussi bien à Malte qu'en Italie, voir ces ONG, j'ai reçu ces ONG, donc, et notamment SOS Méditerranée, parce que c'était légitime que ces bateaux des ONG accompagnent ces migrants vers l'Italie, et c'est ensuite aux pays européens d'accepter la répartition, parce que c'était ça que moi je voulais faire, et avec Angela Merkel, c'est-à-dire bon, l'Italie, c'est pays de premier accueil, c'est là que doivent se faire les opérations administratives, les sélections, quelquefois les refus d'entrée sur le territoire européen, mais ensuite, au nom du droit d'asile, il faut que les demandes puissent être instruites et qu'il y ait une répartition qui puisse se faire. Quand Madame Merkel s'est retournée vers des pays qui étaient longtemps liés à l'Allemagne, ce qu'on appelait les anciens pays de l'Est, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Pologne, quand elle s'est retournée vers ces pays pour dire, voilà, moi je vais accueillir un certain nombre de migrants, des demandeurs d'asile, suite aux crises qui sont à nos frontières, combien vous en prenez, vous ? Et que tous se sont retournés vers elle en disant « Nous n'en prendrons aucun ». Là, il y a eu un manquement grave à ce qu'était l'esprit de l'Europe.
Partiamo dai dati. In Italia si registrano più espulsioni che arrivi. Di a fronte di 155 arrivi.
Cette crise migratoire s'enlise entre 2017 et 2018. Certains procureurs italiens, comme le nouveau ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini, poursuivent pénalement les ONG. Débarquer dans les ports italiens devient de plus en plus difficile, voire impossible, et les pays voisins n'offrent que rarement une solution. Les bateaux de sauvetage sont donc soit bloqués en mer, soit retenu à terre pendant de longues semaines.
L'Aquarius est bloqué au port depuis ce jeudi. Le bateau humanitaire vient en effet de perdre son pavillon panaméen.
La France aussi refuse l'Aquarius, et Christophe Castaner, son ministre de l'Intérieur, accuse publiquement à son tour en 2019 les ONG d'être complices des passeurs, sans jamais pour autant présenter de preuves.
En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG.
Alors c'est parti de l'Italie au départ, en 2017. Au début, je dirais que c'était vraiment assez limité à la fachosphère italienne, vraiment des mouvements d'extrême droite très virulents, avec des campagnes de fake news, mais des choses incroyables. Enfin, on a... Bien évidemment, rien n'a jamais été prouvé et ça n'a donné l'objet à aucune condamnation d'ONG derrière. Mais le dénigrement, le bruit, l'espèce de rumeur permanente s'est propagé de l'extrême droite à un courant beaucoup plus mainstream en Italie. Je me souviens avoir été à Rome faire des auditions devant des parlementaires italiens qui nous posaient des questions pour savoir si on faisait des appels de phare avec l'Aquarius aux passeurs libyens, enfin des trucs complètement farfelus et qui ont donné lieu à un code de conduite dès 2017 où on s'engageait à ne pas faire des appels de phare aux passeurs libyens, etc. Ben alors, on peut les signer puisque évidemment on n'a jamais eu de contact avec les passeurs libyens. Mais le seul fait de dire qu'il y a besoin d'un code de conduite pour encadrer l'action des ONG, c'est une manière de dire ce que vous faites, c'est pas bien, potentiellement vous vous conduisez mal, donc il va falloir mettre un peu d'ordre là-dedans, etc. Et en fait, c'était évidemment une manière politique, je pense, de reprendre la main sur un débat qui était de plus en plus animé par les mouvements populistes. Et c'est facile de s'en prendre à quelques petites ONG qui ont entre 5 et 15 salariés chacune et de criminaliser ces migrants qui traversent la Méditerranée facilement. Voilà, et tout ça avec des visées politiques internes, clairement.
Je pense que maintenant, ces organisations ne sont pas liées, bien sûr, aux trafiquants ou aux passeurs, mais ces organisations sont seules et sans concours étatique, aucun concours étatique. La question, c'était quand ces ONG sauvaient des migrants ou ces bateaux les reconduisaient à Marseille, en Espagne ou en Italie. Non, ces ONG disaient, nous, on va au plus près pour sauver ces personnes-là, il faut qu'on les raccompagne là où la traversée sera la moins longue. Donc, c'était vers l'Italie. D'où, d'ailleurs, c'est vrai, la montée du populisme en disant, vous voyez, c'est sur l'Italie que l'essentiel de l'accueil se fait et que ce sont des charges lourdes qui pèsent sur un certain nombre de villes ou d'îles italiennes. C'est pour ça que le problème s'est posé avec l'Italie.
Et que le problème se pose toujours en 2021, 11 heures après le dernier appel de détresse des naufragés.
Bonjour, ufficiale di servizio.
Bonjour. Siamo della Ocean Viking. Siamo attualmente nell'area di ricerca del medio ricevuto via.
Le 22 avril au matin, vers 7h35, après une nouvelle nuit de recherche dans le noir, l'Ocean Viking tente l'appel de la dernière chance. Sans réponse des autorités libyennes sur les ondes, les sauveteurs tentent d'appeler d'autres centres de coordination méditerranéens, comme celui de Rome. Même s'ils savent que les Libyens sont légalement les seuls à coordonner cette zone, ils demandent aux Italiens un soutien aérien pour repérer l'embarcation. La réponse dans cet enregistrement est la même depuis 2018 sur cette zone, quelle que soit l'urgence. L'information ne peut pas être partagée avec l'Ocean Viking et cette zone de sauvetage n'entre pas dans la compétence de ce centre de coordination. Fin de communication. Les sauveteurs se tournent alors directement vers le pilote de l'avion qui a repéré le premier l'embarcation et émis un Mayday sur le canal d'urgence. Un avion de l'agence aux frontières de l'Europe, Frontex.
Osprey, 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 Ocean Viking, Ocean Viking, do you read me?
L'Ocean Viking cherche à savoir si Frontex a plus d'informations sur la situation actuelle du bateau et à obtenir des coordonnées GPS à jour pour se rendre sur zone.
Ocean Viking, do you read me?
Ocean Viking, Osprey 3, we are maritime control aircraft and we are taking part.
Le pilote de Frontex répond à l'ONG qu'il prend effectivement part aux recherches, mais n'est pas habilité à les coordonner. Et il ne transmet pas de nouvelles coordonnées GPS aux sauveteurs. Et c'est vrai, la responsabilité de la coordination ne revient pas à Frontex. Depuis 2018, l'Europe a décidé de transférer la responsabilité de la route migratoire maritime la plus mortelle au monde à la Libye et de faire de Frontex, son agence dotée de l'enveloppe budgétaire la plus importante, 850 millions d'euros, un simple relais aérien. C'est ce que m'a confirmé Christophe Borowski, le porte-parole de l'agence Frontex, quand je l'ai contacté.
Ça a été un événement très malheureux. Je me souviens qu'on avait des avions sur zone et que la météo était très mauvaise, ce qui a rendu les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Je sais que pendant que nos avions volaient, nous étions très préoccupés par la force du vent qui mettait nos équipages en danger. Mais on a quand même décidé de survoler la zone. Vous savez, nous n'avons pas de navire en mer au large de la Libye, donc on peut simplement être un relais aérien sur certaines opérations. C'était à environ 40 000 nautiques de Tripoli, donc assez proche de la côte libyenne. C'est vraiment important de souligner que le fait de mettre des gens dehors par ce genre de météo est un crime en soi, parce qu'il est évident que ce type de bateau en caoutchouc ne peut pas rivaliser avec des vagues de 3 mètres. Et tous ceux qui les ont poussés à partir, vous savez, les groupes criminels, les ont mis en danger dès le départ. Donc si je reprends ce qui s'est passé, à 16h51, la première alerte a été communiquée à tous les centres de coordination des secours en Libye, à Malte et en Italie. À 17h14, un appel de détresse a été envoyé sur le canal d'urgence et ensuite, le patrouilleur des gardes-côtes libyens, Obadi, a été appelé directement parce que nous savions que ce bateau était dans la zone.
Cette alerte de la part de l'avion Frontex a lieu 8 heures après le premier appel de détresse des passagers en pleine tempête et son relais à tous les centres de sauvetage méditerranéens. 16 heures après que l'Ocean Viking et ses sauveteurs se soit également signalé aux autorités libyennes qui coordonnent la zone.
À 17h20, l'équipage de l'avion Frontex a également contacté le contrôle du trafic aérien de Tripoli. Ça a été fait parce qu'il n'y avait pas de réponse du centre de coordination des secours à Tripoli. Ils ont insisté et ont été très clairs sur le fait que la situation était absolument critique. À 19h35, notre chef d'équipe à Varsovie a essayé de contacter le centre de coordination des secours de Tripoli à deux reprises, encore par téléphone, mais il n'y a pas eu de réponse. À 20h38, le centre de coordination des secours italiens a notifié à Tripoli que trois navires marchands avaient été déroutés vers la position du canot pneumatique en détresse. Il s'agit des navires Alk, VS Elizabeth et My Rose. À 21h45, l'avion qui tournait au-dessus de l'embarcation a dû retourner à Lampedusa parce qu'il n'avait plus de carburant. Nous ne coopérons pas avec les gardes-côtes libyens. En fait, nous ne coopérons avec aucune autorité libyenne, quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas de cadre légal pour ça. Bien entendu, nous sommes tenus de fournir des informations à leur centre de coordination. Donc, dès que nous trouvons des embarcations en détresse, nous alertons les autorités libyennes. Mais il n'y a aucune coopération. Il s'agit simplement de fournir des informations. Vous savez, c'est important pour moi d'insister sur le fait que nous ne coopérons pas. Dire que nous collaborons avec les gardes-côtes libyens, par exemple, pour traquer les bateaux, ce n'est pas l'idée.
Et là, après tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode, j'ai du mal à suivre. L'Europe et l'Italie ont renouvelé depuis la création de la zone de sauvetage libyenne plus de 100 millions d'euros d'aide pour sécuriser cette frontière. Elles ont livré une dizaine de bateaux et formé les gardes-côtes libyens pour ça. Et l'agence aux frontières de la même Europe répète et écrit sur son site internet « Ne coopérer en aucun cas avec les autorités libyennes », alors que la majeure partie de ces vols de surveillance en Méditerranée s'effectue sur la zone de sauvetage de Tripoli.
Alors là aussi, rôle de Frontex, on ne comprend rien. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y avait cet avion de Frontex au-dessus et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction des autorités maritimes, puisque... Il semblerait qu'il y avait des moyens aériens et donc une connaissance de ce cas de détresse. Je ne vais pas pouvoir m'exprimer à la place des autorités européennes. Je ne comprends pas quelle est leur idée, très franchement. Quand on voit que les autorités européennes, par le biais de l'Italie, se disent que la solution, finalement, ça va être de renforcer la capacité des Libyens pour gérer ce flux migratoire. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça continue. L'argent arrive par les financements de l'Union européenne vers la Libye. Est-ce que ces flux se sont taris ? Non. Ces flux continuent. Est-ce que les traversées se sont arrêtées ? Non. Les personnes doivent tenter 3, 4, 5, 6, 7. On a eu quelqu'un qui nous a parlé de 12 traversées. Donc ça ne s'arrête pas. On le sait. Et ce n'est pas efficace non plus. Est-ce qu'on est sérieux quand on dit que ce sont ces navires de sauvetage qui font un appel d'air ? Ou bien est-ce que c'est cette politique qui consiste à transférer des dizaines de millions d'euros qui, peut-être, fait en sorte que en Libye, l'intérêt général, finalement, c'est de continuer à alimenter ces réseaux de traite ? Ce serait peut-être intéressant que les États européens se posent cette question. Au bout de 5 ans, 6 ans de politique de coopération qui mène à rien, si ce n'est... toujours des violations des droits humains et des morts en mer supplémentaires.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter. Donc il faut qu'on ait, quand je dis « on », ça veut dire l'Europe, ça veut dire aussi les pays africains. Il faut que nous ayons une politique commune, sinon on sera confronté à des drames qui vont se répéter. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est un espace de valeurs, de principes et un espace de solidarité. Chacun doit prendre sa part. Encore récemment, il a été décidé que lorsque des pays qui ne veulent pas accueillir de demandeurs d'asile venant précisément des côtes africaines et de Libye, ils devront, ces pays, payer une contribution, une cotisation pour se décharger. C'est pas l'esprit européen. L'Europe, c'est pas simplement une Europe continentale, c'est aussi une Europe méditerranéenne. Et donc, aider la Grèce, qu'on a sauvée quand même, heureusement, aider l'Italie, aider l'Espagne quand elle est confrontée, ou la France, c'est prendre sa part. Chacun doit prendre sa part, tout en ayant des règles communes. C'est ça l'enjeu d'ailleurs de l'Europe pour les années qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on partage ? On vient simplement prendre ce qui nous intéresse dans l'Europe comme si c'était une carte de restaurant, on prend ce qui nous fait plaisir, mais aujourd'hui l'émotion qui était forte, elle s'est émoussée, et peut-être d'autres émotions moins positives se sont exprimées ou s'expriment encore en disant « voilà, nous n'en voulons plus, qu'ils restent là où ils étaient et lorsqu'il se produit des tragédies, il n'y a pas la mobilisation telle que nous l'avions connue en 2013-2014.
130 migranti sono morti in mare, sono persone, sono vite umane.
Le seul chef d'État qui a réagi après ce drame ne fait pas partie de l'UE. Et il a pris la parole depuis le balcon de la place Saint-Pierre de Rome, à un peu moins de 1000 km du naufrage.
C'est le moment de la vergogna. Preghiamo per questi fratelli e sorelle.
Dans son discours du 25 avril 2021, le pape François a dénoncé le moment de la honte, que sont ces deux jours où ces personnes, ces vies humaines, ont appelé à l'aide en vain.
Le malheur avec les drames, c'est quand ils se répètent, ils deviennent des banalités médiatiques. Aujourd'hui, qui parle encore des naufrages qui, en Méditerranée, continuent, au-delà même de ce que le pape a pu révéler. Donc le rôle de la politique, à l'évidence, c'est de ne jamais banaliser le drame, c'est de régler les questions et d'éviter qu'il y en ait d'autres drames, ou qu'on s'habitue au drame. Il n'y a rien de pire, finalement, que de s'habituer au drame. Ça veut dire que nous avons été ou indifférents ou impuissants.
La semaine prochaine, retrouvez le troisième épisode du Naufrage, une série originale du podcast L'Affaire, écrite avec Suzanne Collin et qui est réalisée par Adrien Leblanc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.